un moment de la nature. Je vais m'arrêter sur ces définitions. Et on voit qu'il choisit la vocation spirituelle. Il y a donc déjà un entrecroisement des vocations qui, au point de départ, ça vous aidera à comprendre pourquoi Isaac, jusqu'au bout, suit ce plan-là, au point de départ, pour être une réussite parfaite. Hein? J'ai un peu un peu analysé cela. Bon, je pense que, par expérience que vous m'en vous comprenez par vous-même, celui qui a des vocations pour les tâches matérielles, eh bien, de poser de ses capacités naturelles, si c'est les tâches matérielles qu'il choisit, il n'aura plus aucune chance de pouvoir être en relation très bien avec le monde des valeurs spirituelles. Et je veux dire, un homme voué à l'esprit pur ou un homme voué à la matière pure, c'est pas ça Israël. Israël doit rassembler cette double capacité en une identité unifiée. Or, vous comprenez tout de suite que c'est ce qui se cherche dans l'histoire de la société humaine. Et que cette réussite-là est surhumaine. Toute l'histoire montre que c'est surhumain pour l'homme d'arriver à être à la fois l'homme des valeurs matérielles et celle des valeurs spirituelles. Et que c'est pratiquement impossible. Bon, le caractère miraculeux de l'identité d'Israël, la mutation de Jacob Israël, va nous montrer que c'est possible en Israël. Mais est-ce que vous suivez? Je vais lentement, intentionnellement. Vous suivez donc quelle est la définition du problème. Comprenez bien une chose, ce n'est qu'à l'échelle du clan Israël que nous avons l'expérience de cette possibilité. Mais pour les vocations particulières, l'une dans l'ordre de l'esprit, l'autre dans l'ordre de la matière, et pour le moment, a priori, les mots n'ont aucune valeur péjorative. Hein. Il faut aménager ce monde-ci en vue que de ce que le monde à venir soit possible. Il faut réussir et ce monde-ci et le monde à venir. Le créateur, c'est le créateur de ce monde-ci pour le monde à venir. Et par conséquent, les deux tâches sont sous le regard du même Dieu unique. Okay? Mais dans l'état des choses, elles sont incompatibles. Un homme voué aux vocations matérielles par ses forces naturelles ne peut pas s'occuper des valeurs spirituelles, et inversement, mais même plus banalement que cela, on n'a pas le temps de faire et l'une et l'autre, à moins d'être amateur. Pour réussir vraiment les tâches de l'esprit, il faut faire que ça. Pour réussir vraiment les tâches de la matière, il faut faire que ça. À moins d'être amateur, touche à tout, on ne peut pas être l'homme de cette double vocation. Et pourtant, c'est ça le but donné à l'homme, et c'est ça le programme d'Israël. Ne vous trompez pas, mais je vais diviser la difficulté en état. S'il vous plaît ? La première donnée, c'est cela. Il faut comprendre que c'est incompatible. Et l'expérience le montre. Quelqu'un qui, je voudrais être très, très prudent dans le vocabulaire pour pas que vous risquiez de vous tromper sur les implications dans la réalité. Vous comprenez? Pour le moment, on ne fait pas de choix dans l'autre. Je vous analyse le problème. Quelqu'un qui ne s'occuperait que des valeurs spirituelles, eh bien, c'est pas encore ça, ce que le Créateur cherche. Puisqu'il n'a pas créé que des âmes, il a créé des âmes qui ont un corps. Donc, c'est une autre identité de créature qu'il faut réussir. Pas l'âme seule, pas le corps seul. Est-ce que c'est clair? Mais quand vous entrez dans la vie, pour certains, vous avez un peu commencé, je suppose, à expérimenter cela, sachez bien que les hommes se divisent en deux catégories, à propos de n'importe quoi. Par exemple, il y a les médecins et les malades. Oui, c'est où l'un ou l'autre. En toute chose, il y a les uns et les autres. Okay? Vous avez entendu parler de l'invasion par les germes. Vous envahissez les autres. Okay? Voilà donc, dès le point de départ de l'histoire de l'humanité, ce problème insoluble qui est donné à l'homme. Créature de ce monde-ci pour le monde à venir. On le peut dire d'une autre manière. C'est dans ce monde-ci qu'on prépare le monde à venir. Par conséquent, il y a les tâches d'aménagement de ce monde-ci et il y a les tâches de mérite du monde à venir. L'idéal, c'est que le même homme puisse dire Naasé et Mishma. Okay? Mais il y a le Naasé et il y a le Mishma. Je vais vous montrer d'abord la difficulté au point de départ, après on verra comment il y a une solution. Et voilà l'exemple que le Midrash nous donne sous forme d'image. Il y a une expression qui revient très souvent. Tout le temps des cieux sur la terre. Par exemple, dans le Kachma, Kimé, Hashamaim, Malaret. Et alors, le Midrash, surtout dans Zohar, développe ça en disant tant que le ciel est sur la terre, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Parce que la terre, c'est vers en bas, la pesanteur. Et le ciel, c'est l'élévation. Si le ciel est sur la terre, alors le ciel monte et la terre tombe. Il n'y a aucune chance qu'il se rentre. Donc l'idéal, c'est le ciel sous la terre. Parce que la terre tombe et le ciel monte, alors ils se rencontrent. Mais si le ciel monte et la terre tombe, ils ne se rencontreront jamais. Vous avez compris l'image? Tant que le ciel est en haut et la terre est en bas, c'est une catastrophe. Il faut que la terre soit en bas et le ciel, la terre soit en haut et le ciel soit en bas pour que l'horizon signifie quelque chose. Parce que la pente naturelle de la terre, c'est de tomber, et la pente naturelle du ciel, c'est de monter. Alors la terre empêche le ciel de se perdre et le ciel empêche la terre de se perdre. Vous avez compris? Et ils sont. Donc, habituez-vous déjà à ce paradoxe apparent, c'est pas du tout un paradoxe, de l'inversion de l'éclat. Quoi? Ben, réfléchis, tu comprendras tout ça. Lorsqu'il y a, si vous voulez, deux buts à atteindre, mais par définition, ils sont opposés de direction. Il faut inverser les directions pour qu'ils se rencontrent, sinon ils ne peuvent que diverger. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, une vocation, je parle de la personne humaine dans notre monde, une vocation qui serait uniquement spirituelle, de contemplation pure, c'est pas ça Israël. C'est-à-dire, une vocation qui serait uniquement de temporelle pure, c'est pas ça Israël. Et nous verrons, comme d'habitude, que puisque le problème a deux dimensions, il y a quatre personnages qui vont apparaître. Mais enfin, Léa Féa, vous allez essayer de comprendre. C'est-à-dire, un Jacob qui ne serait que Jacob, c'est pas Israël. Un Ésaü qui ne serait qu'Ésaü, c'est pas Israël. Est-ce que c'est clair? Donc, nous voyons que la Torah nous raconte l'histoire de Jacob devenant Israël. Et c'est la seule solution possible, comme nous allons voir. Ésaü ne peut pas devenir Israël. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Mais pour le moment, je suis au point de départ. Cet enfant, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qui se cherche, un Abraham engendré par Isaac, c'est clair, mais dans le vocabulaire vous êtes familier, eh bien, il y a parmi les quatre possibilités, il n'y en a qu'une qui est viable. Et c'est celle-là l'histoire du peuple des Béné Israël, la tentative du peuple juif. Alors, quelles sont les quatre possibilités? Un Jacob qui resterait Jacob, c'est l'échec. Parce qu'il a la vocation spirituelle et que ça, et alors il n'a pas de place dans ce monde-ci. Et vous voyez bien que Jacob, comme Jacob, n'a pas de place dans ce monde-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué la correspondance de signification. Partout, même chez lui, on lui dit que pas Jacob. Est-ce que c'est clair? Et puis, il faut passer par ce monde-ci pour obtenir ce pourquoi Jacob travaille, comme Jacob, la force spirituelle pour obtenir le monde à venir. Je vais rappeler un Midrash du temps de la sortie d'Égypte, très rapidement, lorsque vous rappelez que la persécution s'est faite la plus dure, je ne sais pas si vous étudiez ça cette année, et les chefs d'Israël ont décidé de ne plus avoir d'enfants. Vous rappelez ça? Bon. Et Myriam, la fille d'Amram, le père de Moïse, Myriam a eu une prophétie et va voir son père. Vous avez lu ce Midrash? Non? Il va voir son père, il y a deux enseignements, il dit que tu es. Par deux manières, tu es pire que le pharaon. Parce que lui, le père, Amram, était le chef de la tribu de Lévi. Et donc, il y a eu une décision, nous avons dans le Midrashim, le Sanhedrin s'est réuni, la persécution est telle que ça n'a plus aucun sens d'avoir des enfants qui deviennent ce qu'ils deviennent au temps de l'Égypte, de la catastrophe, on arrête d'avoir des enfants. Alors, Myriam a une révélation, et elle vient dire à son père, tu as pris cette décision, mais. Et de deux manières, tu es pire que le pharaon. Parce que finalement, le pharaon a décidé de tuer que les garçons, et toi, en empêchant la naissance de l'enfant, tu tues aussi les filles. Bon. Deuxièmement, le pharaon ne leur enlève que ce monde-ci, tandis que toi, tu leur enlèves et ce monde-ci et le monde à venir. Parce que pour avoir le monde à venir, il faut passer par ce monde. Vous y êtes? J'ai compris. C'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, si Jacob n'est que Jacob, il n'a pas de place dans Olamazé. Et il a besoin, pour avoir une place dans Olamazé, que Ésaü la lui donne. Mais s'il y a la séparation, Ésaü, c'est l'homme de ce monde-ci, Jacob, l'homme de monde à venir, mais Jacob n'a pas de place. Pourquoi? Parce que tout ce monde-ci appartient à Ésaü. Vous comprenez en termes de vocation? Il faut attendre qu'Ésaü lui fait une place. Vous voyez bien que c'est son histoire. Ésaü ne fait pas de place. Alors il n'y a pas de place dans ce monde-ci. C'est pas seulement que Jacob, c'est le juge de l'exil, vous comprenez, la vocation spirituelle seule dépend de la charité de qui? De l'homme de la vocation matérielle qui, par définition, n'est pas charitable. Vous avez compris la difficulté du problème. Je continue. Inversement, Ésaü est perdu parce que s'il n'est que l'homme de ce monde-ci, sa mort, c'est sa mort. Et il n'a aucun avenir par rapport au monde à venir. Est-ce que c'est clair? Vous suivez? C'est-à-dire, Jacob est perdu parce qu'il est l'homme du monde à venir, il n'a pas de place dans ce monde-ci et sa destinée n'a pas de base. Ésaü est perdu parce qu'il n'est que l'homme de ce monde-ci et donc il est déjà mort puisque 70 ans, 80 ans, 120 ans de vie, c'est rien par rapport au problème que pose la destinée, c'est-à-dire au problème de l'éternité. Si vie, c'est 70, 80 ans de la vie terrestre et qu'après c'est fini, déjà c'est fini. Et c'est ce qu'il va dire lui-même d'ailleurs. Vous comprenez le problème? On a un peu appris cela dans l'analyse du mot met, qui en hébreu signifie mortel et mort. Okay? Pourquoi? Parce que si je traduis le mot met pour dire vivant, met en disant mortel, et en français c'est synonyme, okay? Un vivant c'est un mortel. Okay? S'il est destiné à la mort, déjà il est mort. C'est pourquoi un mortel, on l'appelle un mort. En hébreu. Vous voyez ce que vous comprenez bien cela? C'est-à-dire, tant qu'un homme n'a pas déjà acquis son mérite de l'éternité, bien qu'il soit vivant biologiquement, il est déjà mort. Parce que sa mort, ce sera la mort. Vous voyez, c'est clair? Bon. C'est pourquoi, en hébreu, on ne dit pas mortel, comme en français, on dit mort. Pour dire mortel. C'est clair? Bon. Alors, vous voyez pourquoi il y a ici un problème d'inversion de vocation. Je suis maintenant, dans ce premier chapitre, la vision d'Isaac. Comment Isaac voit les choses? Bien. Il y a les deux vocations à réussir. Eh bien, normalement, d'après la loi naturelle, Ésaü aurait dû être l'homme de la vocation spirituelle. Parce qu'il est le premier-né, le Bechor. Il est le plus kadosh de kadosh. Bien. Mais voilà qu'il a choisi la vocation naturelle. Alors, pour Isaac, ça va très bien. Il y a convergence des vocations, chance d'une unité possible. Ainsi pour Jacob. Vous voyez, c'est clair? Après, nous verrons au deuxième chapitre comment Rebecca, elle a vu le problème. Pour que ce plan de Isaac marche, il faut qu'il y ait amour des frères entre eux. C'est bien compris. Bon. Alors vous voyez que Israël, ce n'est pas Jacob seul. Tant que Jacob n'est pas encore Israël, c'est l'échec. Alors je vais vous énumérer ces quatre personnages possibles et on va essayer de les faire vivre dans l'histoire tout à l'heure. Un Jacob qui ne serait que Jacob. Un Ésaü qui ne serait que Ésaü, un Jacob qui est capable d'être Israël, et un Ésaü qui se prend pour lui. Alors je vous en donne d'ailleurs. Vous voyez les quatre possibilités. Alors, un Jacob qui ne serait que Jacob, on pourra dire que tout est préservé pour l'avenir, puisque ce Jacob peut un jour devenir Israël. Mais suivez bien, parce que vous allez apprendre des choses difficiles à comprendre. Très sympathiques actuellement, mais difficiles à réaliser. C'est-à-dire, une certaine façon de définir le judaïsme qui serait que comme spiritualité, que comme ascèse. Et vous voyez déjà par où ça cherche. Hein? C'est-à-dire, Jacob restant Jacob. Et d'ailleurs, comme lieu privilégié, l'exil. Hein? Puisque on n'a pas, en tant que juif, à se préoccuper des problèmes de ce monde-ci. Ça, on laisse faire. Ça, on laisse ça ouvrir. Bien. Et je pense que vous avez compris. Bon, ça, c'est un premier personnage. On peut suivre à deux registres à la fois. Je dirais au registre de la typologie humaine en général et au registre de la typologie de l'histoire d'Israël. donc pour l'anthropologie humaine, ce serait l'homme de la vocation purement, purement spirituelle. Et il y a, comment dire, inévitablement, une ruse avec soi-même. Vous voyez, pourquoi on pourra accuser objectivement un Jacob qui n'est que Jacob d'être rusé? Parce qu'on fait semblant qu'on n'a pas de corps. On fait semblant qu'on n'est pas inséré dans ce monde-ci. On fait semblant que. On sait très bien que on est relié à ce monde-ci, mais on se voue uniquement au monde à venir dans ce monde-ci. Il y a donc une manière de faire semblant que, une ruse avec la réalité. Est-ce que c'est clair? Mais nous savons que c'est provisoire. Bon. Et deuxièmement, deuxième personnage bien accueilli. Je veux dire que d'une façon générale, sur ce premier point, la position spiritualiste pure et que ça, se présentant comme telle, c'est une position comment dire, difficile à justifier du point de vue de la réalité vraie. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'un homme voué que à l'esprit? Mais tu manges. Dès qu'on a vu, tu respires. Dès qu'on a vu ça, on voit que c'est une limite idéale, mais qui n'est pas saine. Encore une fois, elle est bien claire. Voilà. Je ne parle pas de la position juive authentique, je parle de la position limite de quelqu'un qui se prétendrait uniquement de vocation spirituelle. Et cependant, il vit la vie biologique terrestre. Donc, il y a déjà quelque chose qui tourne pas rond, ce avec quoi il est obligé de ruser dans sa propre respiration. Est-ce que c'est clair? Bon. Deuxièmement, le matérialiste pur, l'homme de la vocation purement matérielle. Ça aussi, c'est une position intenable. Pourquoi? Parce que le matérialiste, le plus matérialiste, sait très bien qu'il y a ce que nous appelons une âme, un esprit, des valeurs. Okay. Il a beau dire je ne suis préoccupé que des valeurs de jouissance en changeant de votre valeur, les valeurs bancaires. Okay. Vous savez ce que c'est une valeur en banque. Okay. Et quand il est homme et qu'il respire, alors il ne peut pas ne pas avoir des valeurs spirituelles, quelles qu'elles soient. Même en Russie soviétique, il y a des exigences artistiques. Par exemple, c'est un art décadent, mais c'est quand même de l'art. Et d'ailleurs, vous remarquez que c'est en général chez les artistes que la révolte commence. Je parle de la Russie soviétique pour cette question. Mais c'est vrai que dans tout ça. Comprenez-vous? C'est-à-dire, ces deux positions-là sont deux positions d'échec. Avec cependant, pour la première, celle d'un Jacob, qui ne serait que Jacob, l'avenir est préservé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Troisième position. Et Esaü se prenant pour Israël. C'est-à-dire, l'homme de la matière s'occupant des choses de l'esprit. Et alors ça, c'est aussi un échec. Pourquoi? Parce que l'homme de la matière s'occupant des choses de l'esprit projette dans les valeurs spirituelles, les critères de la matière et rend l'esprit à Dieu. Vous avez étudié ce thème-là lorsqu'on a commencé l'introduction à ce que c'est que la philosophie grecque. Vous vous rappelez? Parce que la mentalité grecque projette les critères de la quantité, de l'impersonnel valable dans le monde de la matière, dans les problèmes des valeurs spirituelles et aboutit à la conscience tragique. Vous vous rappelez? L'impureté, l'obscurité, proche de la foi. C'est-à-dire, l'homme de la matière, usurpant la vocation spirituelle, la rend impure. Ça, c'est la première chose. Et dans l'histoire, ça s'est incarné dans le Christ. Rome, prétendant être Israël, qu'est-ce qu'il en est résulté? Parce que l'esprit rendu impur. Pourquoi? Parce qu'on y a projeté les critères de la matière. On a mis la mort dans la vie, et on adore le... Exactement, la mort dans la vie. Vous voyez, c'est clair? Bon. Et il reste donc la quatrième position. La seule qui peut réussir, c'est Jacob devenant Israël. C'est-à-dire, l'homme de la vocation spirituelle s'occupant de la vocation matérielle. Il y met la bénédiction, la fécondité, la transfiguration. Est-ce que vous voyez ces quatre positions, je vous les reprends. Hein? Alors, elles sont vécues dans l'identité humaine générale. elles sont vécues au paroxysme dans l'identité juive. Je vais vous les décrypter au niveau de la société juive. Jacob, qui n'est que Jacob, c'est la yeshiva, dans la galoute. Le ghetto. Yeshiva, c'est pas la peine de préciser les yeshivas. La vie du ghetto. Quelle est la vocation d'un ghetto? La vie spirituelle. Et on ruse avec les nécessités matérielles. C'est clair? Jacob. Va achicha b'mirma. La rue. Ça ne peut être qu'une position provisoire. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'Ésaü dans la société juive? Eh bien, c'est le juif assimilé. Un fils d'Isaac n'ayant que la vocation matérielle. Il ne s'occupe que de sa vocation professionnelle. Le reste de sa soeur. C'est ça le juif assimilé. Oui? Vous suivez? Bon. Hein? Ou ailleurs, le juif assimilé. C'est-à-dire, cette vocation qui consiste à ne s'occuper que de l'aspect proprement matériel de la vocation humaine. Okay. Troisième position, dans la société juive, c'est Ésaü, ce prétendant Israël. Eh bien, c'est toutes ces idéologies juives au nom d'un matérialisme juif. Et en général, elles procèdent des juifs assimilés. Pas en général, plus juifs. Et puis la quatrième position, c'est Jacob, l'homme de la Torah, s'occupant des tâches matérielles de la construction du pays. Ça, c'est Israël. Et on va retrouver le seul endroit. Vous voyez, c'est bien?
Est-ce qu'un jeune doit avoir une véritable vocation
spirituelle? Oui, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un homme authentique. Parce qu'un homme qui n'a qu'une vocation spirituelle coupée des tâches de la vocation matérielle n'est pas un homme authentique. Seulement, comprenez bien une chose, il est nécessaire qu'il y ait des êtres d'exception qui ne sont que ça ou que ça, mais c'est des êtres d'exception pour nous montrer comment on est, enfin pour nous montrer quel est le derrière de la vie spirituelle pure ou de la vie matérielle. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'identité. Vous comprenez ce que vous... D'ailleurs, en général, nous trouvons surtout chez l'égoïsme, par rapport au problème de la relation spirituelle, cette espèce de définition d'un idéal absolu, d'idéal comme idéal, l'art pour l'art, dans la vie spirituelle. Beaucoup moins chez l'égoïsme. Les juifs restent attachés à l'unité des valeurs, même quand ils sont assimilés. C'est surtout chez les goïms qu'il y a cette espèce de modèle, d'un ascétisme absolu. Mais c'est inauthentique. Parce que cet ascète absolu a quand même un corps. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le monde identique.
Ces quatre grandes définitions se réfèrent au clan, non pas à l'échelle
du clan. Oui, c'est-à-dire à l'échelle du clan. Le problème ne se pose même plus. Okay. Le problème est résolu totalement. Okay. Mais ce que je vais vous montrer, c'est, du point de vue de l'histoire des engendrements, comment ces quatre problématiques apparaissent. Enfin, ces quatre racines de la même équation. Okay. Je reprends l'échelle générale de l'histoire des lignées. Vous voyez, à la limite, on pourrait dire que nous avons quatre personnages. Le spiritualiste pur, le matérialiste pur, le chrétien et Israël. Okay. Qu'est-ce que c'est que le spiritualiste pur? Un Jacob qui ne serait que Jacob. Et on n'a aucune idée à quel point il y a dans le monde religieux juif cette tentation de ne connaître que la Torah de Jacob. Israël, ils n'arrivent pas à percevoir qu'Israël c'est les deux. Est-ce que vous comprenez bien? Ensuite, je vais vous montrer ces personnages dans le verset. D'abord, comment ils se mettent en place. Vous voyez quel est le rêve d'Isaac? La convergence des valeurs. On a besoin d'un Ésaü tzadik. On a besoin d'un Jacob tzadik. Ensemble, ils se mettent en place. Ça échoue. C'est dans l'histoire de Jacob qu'on aura Joseph et Judas. Et ensemble, ils sont Israël. C'est clair? Je vais voir comment ça se fait. Et donc, vous voyez, il y a quatre pentes de vocation, et l'histoire a montré que nous sommes aux prises avec ce problème. Une vocation purement spirituelle juive, le judaïsme devenu religion, désincarné, greffé artificiellement sur une histoire d'égoïsme, ça c'est la galoute. La galoute dans sa cohérence. La communauté juive, c'est quoi? Une communauté de vocation spirituelle, ne s'occupant pas escalité comme telle du problème, disons, de l'aménagement de ce monde-ci, enfin, du problème de la vocation toute autre. C'était, mais rusant avec lui. Et la communauté de la galoute s'est toujours connue comme dans une espèce de en marche provisoire, destinée à devenir une espèce. Lorsqu'elle s'instaure comme telle, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, Jacob s'est toujours connu comme candidat à Israël. Un Jacob qui ne veut être que Jacob, c'est l'échec. Ça y est, c'est clair? Donc, ensuite, opposé à cela, l'Ésaü qui n'est qu'Ésaü. Et ça, c'est le matérialisme social. Et nous verrons son drame, c'est le drame d'Ésaü, c'est la grande tragédie, c'est le malheur de la conscience, parce que cet homme, tout matérialiste qu'il est, uniquement occupé à la recherche de la jouissance, du profit, devenu assassin, barbare, chasseur, c'est ça l'assassin, il a quand même une âme, et elle ne le laisse pas tranquille. Est-ce que c'est clair? De la même manière que l'autre a quand même un corps. Vous devez vous corroler. Et puis alors va apparaître une espèce de drame auquel je vais vous faire assister dans le récit, et qui est que Ésaü se prend pour Israël. Alors qu'est-ce qui arrive? Il arrive cette catastrophe qui dans l'histoire s'est incarnée dans la rivalité à Israël authentique par l'Église chrétienne. Rome se prenant pour Israël. Rome se prenant pour Jérusalem. Alors je vous ai donné une analyse un peu succincte. On ne peut pas tout voir à la fois, mais réfléchissez bien à cela. Un homme qui est conditionné par les critères de la matière, s'occupant des choses de l'esprit, rend impur l'esprit. C'est ce qui est arrivé à la religion chrétienne. Elle a projeté dans le problème de la vie spirituelle les catégories de la vocation matérielle. Bon. Et alors, la quatrième possibilité, c'est celle du récit, de l'issue du récit. C'est Jacob devenant Israël. Et quand est-ce que Jacob devient Israël? Quand il fait la preuve que lui, l'homme de la vocation spirituelle, est capable de réussir les tâches matérielles. C'est clair? Vous voyez comment apparaît Israël dans le sens strict. Un de mes maîtres m'avait dit une fois cela. On ne s'est jamais préparé à faire un État pendant 2000 ans. Et voilà qu'on sait le faire. C'est un problème, mais on sait le faire. À la surprise générale, la nôtre continue. On s'est pendant 2000 ans préparé à comprendre la Torah, et on ne sait pas faire. Ça, c'est un autre problème.
Voilà. Mais il n'y a pas d'autres exemples qui font que Ésaü se prenant pour Israël, il y a eu aussi le récit, il n'y a que cet échec.
Pour prendre toute l'histoire.
A priori, ce ne semble pas incompatible.
C'est vrai?
A priori, ce ne semble pas incompatible.
Non, c'est pourquoi je lui ai donné le principe. L'homme de la matière s'occupant de l'esprit matérialise l'esprit. Et vous avez vu à quel point toute la symbolique de la religion chrétienne consiste à matérialiser les choses spirituelles et montre des maquettes matérialisées de ce qu'est l'enseignement de la Bible. Tout. Voilà. Et dans tout le détail du rite chrétien, c'est la matérialisation, premièrement le mythe de l'incarnation. C'est ça que ça veut dire incarnation. Matérialiser quelque chose de spirituel. Et encore, nous parlons français. Et quand vous parlez hébreu, vous verrez qu'il y a la place dans la mentalité hébraïque pour ce mythe, pour ce concept de l'incarnation, ça n'existe pas. C'est la confusion des substances. Mais je vais vous donner un exemple qu'on a analysé au cours de l'année. Je me suis appuyé sur ce que vous avez appris à propos de l'Inyan Aeloki. La notion de l'Inyan Aeloki en engendrement à travers l'histoire d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu le fils. Qu'est-ce qu'il va dire en disant que Dieu s'est fait juif? Et bien, ils disent à leur manière, les Béotiens, ce que Judas Lévi nous a enseigné concernant la Inanaïki. La Inanaïki passe par l'identité juive. Comment ils ont traduit ça? Dieu s'est fait juif. Mais ils y croient, eux, que Dieu s'est fait juif. Vous comprenez? C'est vraiment de la. Je ne sais pas comment vous dire. le mot simple d'esprit est trop simple pour dire de quoi il est. C'est grossier, c'est de la grossièreté. Incapacité de la finesse spirituelle d'un petit juif de Talmud Torah, d'un village de c'est-à-dire, dès que l'on entre un chrétien grave les croyances de la Bible, c'est des maquettes grossières, avec des gros sabots de béotien. Ça me rappelle quand j'apprenais le grec, j'avais un professeur qui était un grand champion de tennis, d'autre part. Et alors, il nous apprenait la géographie grecque, comme ça, avec des historiennes. On mettait en quelle place, en quatrième. Alors, il y avait un athée et un abbé qui se promenaient dans un chemin plein de boue. Une voiture vint à passer, je me le rappelle ici, d'ailleurs. Et on vit l'athée salit et l'abbé aussi. Vous voyez, le problème de la boue. Et c'est ça, vous voyez, tous les personnages sont dans cette histoire. L'athée et l'abbé. Et les deux, ils sont salis. Bon, vous connaissez la Thessalie, THE2SALI, et la Béotienne. C'est de là que ça vient, Béotienne. Thessalonique. Bon, alors on revient au problème. Il n'y a pas d'exemple. Un homme conditionné par les critères de la vérité de la matière, s'occupant des choses de l'esprit, l'obscurcit. C'est la projection scientiste dans la philosophie. Est-ce que c'est clair? L'homme préoccupé de l'exploration de la matière n'est sensible par conditionnement qu'à ce qu'il y a de impersonnel, comment dit nombré, quantitatif. Ce sont les critères de la pensée scientifique. Et lorsque la pensée scientifique, qui est chez elle de façon légitime dans les sciences de la matière, projette les critères des sciences de la matière dans les sciences de l'esprit, elle assassine l'esprit. Et c'est ce qui est arrivé avec la philosophie. Dans le domaine religieux, c'est ce qui est arrivé avec le christianisme. Le christianisme, c'est la maquette matérialiste de l'esprit de la Bible. C'est l'impurification du roi HaKodesh. Écoutez, essayez de comprendre. Je vous dis ça sous forme de blague, mais ce n'est pas une blague. Le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté, chez les juifs, il fait des livres. Chez les goïms, il fait des enfants. Ils appellent ça l'esprit. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui se passe. Il fait des bébés, le Saint-Esprit. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit de l'esprit impur. Attendez, je vous ai fini avec ça. Tu peux chercher dans toute l'histoire de la culture humaine, lorsqu'on projette les critères de la matière dans le monde de l'esprit, on rend l'esprit impur. La seule solution qu'il est, et c'est celle du récit de la Bible, c'est Jacob ayant fait ses preuves qu'il est capable d'être l'homme de l'esprit, s'occupant de la réalité matérielle, il met l'inspiration, il met la vie, la bénédiction, la fécondité, la transfiguration. C'est ça Israël. Et c'est clair? Vous voyez ce qui se cherche dans cette dialectique de l'état civil? C'est bien compris tout le monde? Et vous verrez, alors, vos expériences quotidiennes. Mais, c'est pas l'objet, mais je pourrais vous reprendre tous les soi-disant mystères de la théologie chrétienne à part pour vous montrer que ce sont des enseignements du judaïsme poussés à la limite d'une maquette grossière. Et ils y croient. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Eh bien, c'est voilà ce qu'il leur a dit, c'est Ésaü se prenant pour Israël. Ça y est, c'est clair? Bon. À l'échelle individuelle, on peut rendre un descendant d'Ésaü Israël. Ça veut dire qu'il devient Jacob. En tant qu'il devient Jacob, et il peut, c'était son frère Grimaud. Tout ça est plein d'importance. Enfin, de la forme, hein. Vous comprenez? Alors, nous allons voir ce qui se passe très rapide. Il n'y a plus de questions là-dessus.
Dans la vision hébraïque de visiter des méthodes. Quelle est la place de la partie scientifique
La place de
science dans le concept de la...
Qu'est-ce que c'est que la science? C'est étudier comment le monde fonctionne. Ça veut dire, c'est étudier la volonté de Dieu comme créateur. C'est clair? C'est Dieu qui a créé les lois de la nature. Donc, quand j'étudie les lois de la nature, j'étudie la volonté du créateur. Dans la tradition juive, c'est une occupation sainte. Au Moyen-Âge, lorsque les rabbins entraient dans leur laboratoire pour faire de la science, je vais vous en parler, de la science expérimentale, au temps où les goyims étaient encore dans la préhistoire de l'âge de pierre, eh bien, ils prenaient la tibia avant d'entrer dans le laboratoire, ils allaient la mutiler. Parce qu'on va faire quelque chose d'extrêmement kadosh. On va essayer de deviner, d'apprendre, de comprendre comment Dieu a créé les phénomènes. Et c'est une toute autre mentalité. C'est clair? Par exemple, je ne sais pas si vous savez que Rabbi Akiva de Paris s'éclairait à l'électricité. Vous savez, ben, bon, avant en Volta. Hein. Et etc. Bon, beaucoup de choses. Nous verrons dans la nuit des traces. Ma pénicilline est dans la nuit. Mais c'est un tout autre problème. Qu'est-ce qu'a montré l'histoire? Lorsque les goyim se sont occupés du domaine des Hébreux, la vie spirituelle, ils l'ont rendu impur. Lorsque les juifs s'occupent du domaine des Grecs, c'est-à-dire la science, ils deviennent prix Nobel. C'est clair? Comme dirait je ne sais pas qui, Nobel oblige. Quoi? Oui, mais ils ne prenaient pas la tuile avant. Ils essayaient de savoir déjà comment on construit la bombe atomique. Ils appelaient la pierre philosophale.
C'est ça?
Et d'ailleurs, ils ont laissé les recettes et nous les avons, les recettes. On peut, si on veut, je ne dirais pas comment, mais fabriquer une bombe atomique dans un... Comment on dit ça? Dans un lavabo de cuisine.
On ne
s'échange pas tout en or,
quand
on a fini. Hein? Tu parles d'autre chose.
Non, je parle de la
pierre. Oui, c'est très cher de la pierre. Ils avaient aussi la recette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu chez eux, et nous avons des traces dans leur littérature, des hommes qui cherchaient la régénération du monde. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage? L'alchimie a laissé la chimie. Qu'est-ce qui est sorti de toute cette science goy du Moyen-Âge? C'est sorti la technique moderne. Pas du tout la régénération des âmes, mais la pierre philosophale des Romains Co. Des... Comment on appelle ça? Non, Kuratomi. Les centrales atomiques. Bien sûr, au temps de Rabbi Yehiel de Paris et d'autres, il y avait aussi les alchimistes du Moyen-Âge qui cherchaient. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit de ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il en est resté en réalité dans la science et la technique occidentale? Les engins de destruction. Qu'est-ce que cherchait l'Occident dans les cours des alchimistes? Ils ont cherché ce qu'ils ont fini par trouver, c'est-à-dire la bombe atomique. Et vous avez remarqué à quel point ils sont aidés par les juifs assimilés. Qui leur a donné la formule? Einstein. Pas n'importe qui d'autre. Bon. Alors on revient à l'équation du bas. Je pense qu'elle est maintenant claire pour vous. Il y a quatre personnages qui arrivent de ce problème. Un Jacob qui ne serait Jacob. Un Ésaü qui ne serait Ésaü. Un Ésaü qui se prend pour Jacob. Et un Jacob qui devient Israël, un Ésaü qui se prend pour Israël, et un Jacob qui devient Israël. Le principe que je voulais vous expliquer, c'est celui-là. C'est la question de Yves tout à l'heure. La vocation matérielle projetée dans la vie de l'esprit rend impur l'esprit. La vocation spirituelle projetée dans le problème matériel le transfigure. Ah, c'est ça l'histoire de ce qui est arrivé, de ce qui est né à travers l'histoire du monde. C'est clair? Alors, nous allons voir très rapidement.
Il n'y a pas danger que le matériel dans l'autre cas aussi, c'est dans le cas du spirituel, que le matériel aussi réagisse sur le spirituel.
Bien sûr qu'il y a le danger. Bien sûr qu'il y a le danger que Jacob devienne Ésaü. C'est le juif assimilé. N'oubliez pas qu'au point de départ, ils sont jumeaux. finalement, qui c'est qui a inventé le christianisme?
Oui.
La plus grande catastrophe de l'histoire. Qui c'est qui a inventé le christianisme? C'est des juifs qui voulaient devenir romains.
Il y a tout de même un ordre plus écrit dans l'unité de la spiritualité. La spiritualité doit tout de même primer sur la matérialité.
C'est-à-dire que la vie matérielle doit être à l'abri de la vie spirituelle. Les véritables guides d'Israël sont les hommes de la Torah. À l'abri de cela, alors Jacob s'occupant des vocations matérielles, c'est ça Israël. Mais on va voir tout de suite maintenant un peu plus dans le détail. C'est clair?
C'est un peu pour ça que Isaac, quand on voit dans la Torah, Isaac partait sa vie à cause des puits.
C'est quoi d'après toi, matériel ou spirituel?
Justement, c'est tout.
Non, non, réponds, réponds.
C'est dans son matériel.
Non, c'est spirituel. Creuser les puits, c'est chercher l'eau. Et le maïm est là.
En fait, je vais vous dire, oui, mais
non, il faut que vous apprenez beaucoup de choses pour décrypter ces images. Ça, on n'a pas encore. Creuser un puits, c'est la vocation spirituelle. Vous n'avez pas entendu, comme on dit en français, la vérité sur le puits. Non, c'est convergent. Bon, allez, on va maintenant lire le texte. Alors voilà ce qui se passe, très rapidement. Hein. Tu es avec moi, nous sommes au chapitre 25. On est arrivé au verset 25. Alors, combien de fois je vais vous répéter que cette cérémonie de la recherche des livres d'Aïe. Alors, vous allez vous prendre définitivement chacun un livre, l'emporter avec vous et le ramener avec vous. Ne pas laisser. Alors, verset 29. Lorsqu'on est arrivé, que lorsqu'ils ont grandi, chacun a pris la vocation complémentaire de leur tendance naturelle. C'est clair? Ésaü a choisi la vie de nature, il s'est fait avoir par elle d'ailleurs. Jacob a choisi la vie spirituelle, mais il ne s'est pas fait avoir par elle. Et nous allons voir comment Jacob devient Israël. C'est clair? Alors, après le verset 28, on voit que Isaac suit son plan et Rivka suit le sien. Verset 29. Vayazé Yaakov Nazi. Jacob avait préparé un plat à manger, Nazi, un ragoût. Bon, je vous traduis simultanément dans tous les registres nécessaires à la fois. Vayabo Esav Inasade Veo Aïef. Et Esaü est venu du champ et il était fatigué. Et il s'est donné la vie de nature. La vie de nature, là, lui a enlevé le coup de vivre. Il est revenu fatigué de vivre. C'est clair? C'est exactement ce qu'on appelle dans la philosophie contemporaine. La conscience existentielle, existentialiste. Il n'y a que ce monde-ci. Ça finit par fatiguer. Vous voyez, c'est clair? L'homme qui ne cherche que le bonheur dans la jouissance, finalement, très rapidement, sera désenchanté. Ça commence avec Pierre Loti. Vous rappelez, Pierre Loti, il est désenchanté. Il n'y a pas lu Pierre Loti.